Salut Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
On va parler d'un animal qu'on croit connaître, mais qu'on regarde souvent de haut. L'âne. Ludo, pourquoi l'âne mérite-t-il qu'on s'y attarde? C'est plus malin qu'on ne croit.
Exactement, et ça on va en reparler. La semaine dernière on a parlé de Jean-Loup Trassard, du coup, pour ceux qui le découvraient peut-être. Mais cette semaine je vous fais du coup cette chronique sur l'âne, suite à un livre de l'historien Michel Pastoureau, que vous connaissez peut-être, aux éditions du Seuil. En fait, Michel Pastoureau revisite notre histoire culturelle autour de l'âne. Et c'est sans doute l'un des animaux les plus mal jugés de notre imaginaire collectif. Et d'abord pour son côté bourrique, je dirais. Et pourtant l'âne n'est pas sot, comme tu disais Jacqueline. Il est prudent. Et ce qu'on appelle entêtement, en fait, souvent une forme d'intelligence tranquille. L'âne analyse, doute, hésite, bref, il réfléchit avant d'agir.
On va en profiter, si tu veux bien, Ludo, pour saluer Fabienne Chussot, qui écrit, tu sais, qui est biographe, et qui a adoré la chronique sur Jean-Louis Trassard il y a une semaine.
Et voilà, comme ma maman qui a découvert Jean-Louis Trassard. Petite découverte, c'est fait pour ça.
Exactement. Et pourtant, Ludo ne dit jamais malin comme un âne.
Non,
on serait plutôt tenté de dire bête comme un âne.
Comme bête comme un âne, ça me l'a déjà dit en plus.
Tu te souviens qu'à l'école, toi, t'as pas dû avoir le bonnet d'âne, moi non plus, je te rassure. Mais il y avait quand même le bonnet d'âne,
ça disait. Ça a beaucoup existé, exactement. Ouais. Il est d'ailleurs dans le livre que je suis en train de lire en ce moment. Et c'est bien là toute l'injustice. En fait, l'âne traverse ses siècles chargés de symboles contradictoires. Alors, dans l'Antiquité, il est associé au travail humble, à la terre, à la patience. Dans la Bible, il porte les prophètes, même un symbole d'humilité, mais pas de domination. Et puis en fait, au fil du Moyen-Âge, son image se dégrade. Il devient le contre-modèle du cheval, du coup, noble, qui est noble.
La comparaison est guerrier. Difficile.
Et voilà, alors qu'en fait, il ne servait pas vraiment à la même chose. C'est un peu dommage pour l'âne.
Il a du mal à souffrir la comparaison. L'âne contre le cheval, symbole de la lutte des classes.
Ouais, alors l'âne, il est vu comme l'animal des pauvres, des paysans et des chemins creux, par exemple. Alors qu'au contraire, lui, du coup, le cheval, c'est celui des puissants, des villes et des armées. Alors forcément, dans une société à l'époque hiérarchisée, l'âne en prend pour son grade. On se moque de ses grandes oreilles, de son pas lent, de sa voix. Et pourtant, il a nourri, rappelez-vous, il a nourri, transporté, accompagné des générations entières.
Et dans notre bocage de Sévrien, l'âne, il avait toute sa place ?
Eh bien oui, plutôt. Ici, l'âne en fait était l'allié des petites fermes. Là où le cheval coûtait trop cher à nourrir, l'âne se contentait de peu, lui. Il broutait dans les haies, les chemins, les talus et un peu de foin. Un cheval mange deux fois plus qu'un âne. Et l'âne passait partout, sans abîmer les sols, dans le bocage, avec ses parcelles morcelées, ses chemins étroits. L'âne était donc parfaitement adapté.
Aujourd'hui, donc, on le redécouvre dans les Deux-Sèvres. Il revient doucement, souvent, pour des usages fréquents.
Ouais, des usages même différents, je dirais, avec l'éco-pâturage. Il y a aussi la médiation animale autour de lui. Il y a des balades attelées que vous pouvez faire, l'entretien des espaces naturels, mais aussi, vous le connaissez de plus en plus, pour le fameux lait d'ânesse. Lait d'ânesse qui sert à fabriquer le savon, par exemple. Et le lait d'ânesse qui est également aussi très proche du lait maternel humain, qui est pauvre en matière grasse, riche en lactose et donc très digeste.
Puis impossible de parler de l'âne sans évoquer évidemment la star locale, le bodet du
Soyons
Poitou.
Soyons avec sa taille imposante, le bodet du Poitou, sa fameuse bourre. Donc ça, c'est ses longues mèches en mêlée, pas très propre, et qui parfois impressionne. Donc cette baudet du Poitou, il impressionne autant qu'il intrigue. Et historiquement, il était utilisé pour faire quoi? Pour produire des mules. Donc les mules, c'était des croisés, donc le baudet du Poitou avec des juments de trait. Et les mules poitevines étaient réputées dans toute l'Europe pour leur force et donc leur endurance.
Et puis la mécanisation est passée par là.
Et voilà, le tracteur arrive, et comme beaucoup d'animaux de travail, le baudet a failli disparaître. Dans les années 1970, il ne restait que quelques dizaines d'individus. Aujourd'hui, grâce à des éleveurs passionnés, mais aussi des parcs naturels, des syndicats de race, ces effectifs remonte donc doucement. On parle de quelques centaines de baudets recensés, ce qui reste fragile, mais c'est quand même encourageant.
On dit donc têtu comme un âne. Est-ce qu'il l'est vraiment, Ludo, ou est-ce que c'est encore une médisance des historiens, pauvre âne?
Alors, les éleveurs vous diront, l'âne n'est pas têtu, il est réfléchi. Si un cheval a peur, en fait, il va galoper, il quitte à se jeter dans un ravin. L'âne, lui, s'arrête, il analyse. Il refuse d'avancer tant qu'il n'est pas sûr que le terrain est solide. Et ce que nous appelons donc de l'entêtement est en fait de la prudence et une grande intelligence de situation. Et il n'est pas téméraire, il est réfléchi. Et donc, mon têtu que moi est plus réfléchi, finalement.
On dit souvent que pour faire avancer un âne, il faut soit une carotte devant, soit un bateau derrière. Voir les deux.
Mais la sagesse paysanne, ceux qui ont connu tous ces ânes, ajoutent souvent que si tu lui donnes la carotte, assure-toi qu'il ne te mange pas les doigts. Pourquoi? Parce que l'âne est gourmand, mais il n'est pas dupe.
En parlant de gourmandise, semaine de la chandeleur, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'âne et la chandeleur? Est-ce que je force un petit peu le trait?
Allez, on va forcer le trait, mais bon, on est là pour ça. J'aurais pu vous parler des œufs, la crise des œufs, mais si vous avez trouvé des œufs, vous ferez peut-être des crêpes. Et on peut forcer le trait puisque c'est pour sourire et c'est pour les gourmands. Et Jacqueline, qu'est-ce qu'on a dit? L'âne est gourmand, mais il ne s'empiffre pas non plus. Et la chandeleur ne célèbre pas la fin de l'hiver, mais son léger recul. Les jours rallongent, la lumière revient, sans éclat, certes, mais c'est une fête modeste, domestique, comme l'âne. Animal des temps lents et des chemins creux, il traverse l'hiver sans bruit, en vivant de peu, en tenant bon. À l'époque, dans les campagnes, à cette période, l'âne est là. Il porte le bois, la farine, parfois le lait. Sans lui, pas de feu, pas de crêpe, pas de lumière autour de la table. La crêpe ronde et dorée, simple, qu'on mange avec les mains, dit la même chose que l'âne. Rien de prestigieux, mais là est l'essentiel.
Voilà la morale de l'histoire de notre poète Ludo. Merci à toi.
Allez, bonne journée à tous.